Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. Sandra Gandoin, Lorraine Goumeau, 90 minutes business.
Nous sommes ravis de vous retrouver. Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc,
bonjour.
Vous êtes en forme?
Mais oui.
Au sommaire de ce mercredi 8 février, Total Energy qui dégage donc le bénéfice le plus important de son histoire, 20,5 milliards de dollars en 2022. La guerre en Ukraine est passée par là. On va analyser ces résultats dans un instant avec Mathieu Pechberti et avec Jean-Marc bien sûr. Avec notre invité, nous parlerons du trafic aérien entre régions mis en concurrence avec le train par les politiques pour des raisons écologiques notamment. Il tient le coup et permet d'assurer les liaisons qui n'existent pas sur le rail. C'est Nicolas Polisson, délégué général de l'Union des aéroports français qui sera avec nous dans 10 minutes. Et puis, c'est le virage à ne pas manquer, celui sur lequel les GAFA misent tout. L'intelligence artificielle générative, ces robots comme ChatGPT, entre ceux qui veulent s'en servir, ceux qui sortent leur propre version, il faut en être. La bataille de l'IA, ce sera notre débat à 12h40, mais on en parlera aussi dans 5 minutes dans notre focus avec Frédéric Simotel. Et puis n'oubliez pas, 12h55, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie avec Lorraine Goumeau. Vous nous posez toutes vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Lorraine y répond, elle vous aide à recruter également. Ce sera en direct, en télé, en radio et sur les réseaux sociaux. Allez, tout de suite, c'est le journal.
90 minutes business, le journal.
Et ce chiffre pharaonique, 20,5 milliards, Mathieu Pechberti, bénéfice le plus important de l'histoire de Total Energy.
Oui, absolument, bénéfice record hein, cette année 22, record aussi puisque sur les marchés de l'énergie, à la fois l'augmentation des prix du pétrole et l'envolée des prix du gaz sur fond de guerre en Ukraine et surtout d'interruption des importations de gaz russe, 20 milliards et demi de dollars, 280 milliards de chiffre d'affaires. Ça donne un petit peu le tournis. Tout ça tiré, alors je viens de le dire, par le pétrole, mais ça on est habitué, on va dire, avec Total. Ce qui est nouveau, ou en tout cas ce qui monte en puissance chez Total, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui a remplacé en Europe les importations de Gazprom, qui se sont arrêtées l'été dernier. L'Europe a massivement importé du gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis. Et ça tombe bien puisque Total est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié américain et en même temps le premier importateur de GNL américain en Europe, qu'il a gagné sur les deux fronts, sur tous les tableaux. Et c'est pour ça que Total dégage, rien que grâce à son activité de GNL, 10 milliards de dollars, quasiment d'euros, de cash sur l'ensemble de l'année. C'est quasiment un milliard par mois. C'est trois fois plus que l'an dernier.
Bon, c'est évidemment, ces gros chiffres relancent le débat sur les super profits. Quel effort financier a fait concrètement Total Energy jusqu'ici, Mathieu?
Alors, ce qui reste effectivement dans les esprits, c'est cette remise carburant qui a duré pendant quelques mois, 20 centimes puis 10 centimes de la part de Total. Ça lui a coûté 550 millions d'euros, donc chacun jugera l'effort, ou en tout cas au regard de ses résultats. Il y a également eu 200 millions d'euros de versés en tant que contribution exceptionnelle dite au super profit. Oui. Puis ensuite, il y a eu des efforts faits mais pour les salariés de Total. On l'avait vu pendant la grève dans les raffineries, 7,5% d'augmentation. Mais ça, c'est en interne, on va dire, c'est pas pour l'externe, puisque le débat sur les super profits est la contribution à la société. Alors, Patrick Pouyanné, dans une interview au Parisien ce matin, a ouvert la porte à une nouvelle remise carburant si les prix du diesel étaient repassés la barre des 2 euros. En tout cas, les prix de l'essence, eux, ils sont quasiment tous. Et puis, Olivier Véran, il y a quelques minutes, vient évidemment de rebondir sur cette proposition en disant que Total devrait, en tout cas, encourager Total à faire une nouvelle remise carburant. Donc, on devrait y arriver. Et évidemment, avec ces super profits, ça semble inévitable. Faut pas oublier que Total avait aussi fait un petit geste envers les PME et les TPE pour les prix de l'électricité. Peut-être que c'est là aussi où ils devraient en faire un autre.
Jean-Marc, c'est la bonne façon de rendre l'argent, de faire une nouvelle remise à la pompe?
Je ne pense pas. D'abord, encore une fois, super profit. Je rappelle les propos de Bruno Le Maire qui disait « Je ne connais pas de super profit, je ne connais que de supercherie ». Et donc, il y a beaucoup de discours qui sont des supercheries. Je maintiens que le prix du carbone doit augmenter, qu'il faut organiser la transition écologique le plus rapidement possible. On a eu ce débat dans la matinale. On en a déjà... Je pense que les gens ne réalisent pas les enjeux qu'il y a derrière la consommation de pétrole. Et de nouveau, demander à Total de faire une ristourne pour accroître la consommation d'essence, pour maintenir la consommation d'essence, c'est à mon avis irresponsable. Je rappelle que le président de la République s'est donné deux objectifs pour cette année dans ses vœux. Il a dit « je vais réduire le chômage et le carbone ». Bon, c'est deux choses, à mon avis, assez, c'est, j'appelle ça le zogma, on associe deux choses qui n'ont rien à voir, mais on ne réduira pas le carbone en demandant à Total de baisser le prix de l'essence.
Merci beaucoup Jean-Marc. La suite des résultats des banques françaises par ailleurs, Caroline Morisseau, on avait BNP Paribas hier, Société Générale aujourd'hui qui fait mieux que prévu.
Oui, c'est ça. En fait, la Société Générale a été, sans surprise, quand même très pénalisée par sa sortie de la Russie. C'est un marché sur lequel elle était très présente via sa filiale Rosebank, une filiale qu'elle a dû brader dans l'urgence compte tenu de la crise ukrainienne, et avec à la clé une facture de 3 milliards d'euros. Donc, c'est ce qui ampute ses bénéfices. C'est pour ça que ce sont des résultats un peu en demi-teinte, parce que si on fait abstraction de cet élément exceptionnel et de ses déboires en Russie, la banque s'en sort bien, puisque ses revenus battent des records. Ils sont en hausse de 9% à plus de 28 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Oui. Ils ont été tirés par l'ensemble de ces métiers, notamment la banque de financement et d'investissement où le chiffre d'affaires a progressé de plus de 14%. Derrière, comme chez BNP Paribas d'ailleurs, le coût du risque est en hausse, mais il reste très maîtrisé malgré le contexte économique. Dans ce contexte, eh bien, la banque confirme ses objectifs pour 2025 et après des années compliquées où la Société Générale a enchaîné les mauvaises performances, où elle a été très chahutée en bourse et finalement dans une phase de redressement, dans un contexte plutôt apaisé, qu'elle changera de reine en mai prochain, puisque, comme vous le savez, Frédéric Oudéa quittera la banque pour céder les rênes à Slavomir Krupa, qui est l'actuel patron de la banque de financement et d'investissement.
Jean-Marc ?
Oui, non, il faut se réjouir de la situation de la Société Générale. Frédéric Oudéa était arrivé dans une phase de crise. Daniel Bouton, son prédécesseur, était parti dans un véritable psychodrame autour de l'affaire Kerviel. Là, maintenant, comme la BNP, la Société Générale confirme qu'elle est un des atouts de l'économie française. Et puis, on le disait déjà hier, le rôle de Total sur le plan médiatique, maintenant, c'est d'occuper le terrain. C'est-à-dire, tout le monde déteste Total. Il y a encore 5-6 ans, on détestait le banquier.
Les banques.
Je n'ai que d'ennemis, c'est la finance. Si François Hollande était de nouveau candidat à la présidentielle, il dirait, je n'ai que d'ennemis, c'est Monsieur Pouyanné. Donc, ça permet à la banque de vivre et de faire son métier paisiblement.
Allez, c'est l'heure de notre focus. On parle d'intelligence artificielle avec vous, Frédéric Simotel. Google et Microsoft qui se rendent coup pour coup autour de l'innovation dans le domaine. Google a dégainé hier sa nouvelle technologie. Microsoft lui emboîte le pas hier soir en donnant tous les détails de l'intégration de ChatGPT dans ses propres logiciels.
Oui, exactement. Et Google va même revenir à la charge ce soir puisque quand ils ont su que Microsoft faisait sa conférence hier soir, donc ils ont dégainé légèrement avant. Et là, ils reviennent ce soir pour dire, bon, on va vous donner les détails sur l'intégration. Alors, d'un simili ChatGPT, on va voir un peu quelle est la puissance de cet outil qu'ils appellent le BART. Mais vous l'avez dit, on est vraiment là dans une nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Comme côté Microsoft, alors au-delà des 10 milliards d'euros, 2 milliards de dollars investis dans OpenAI, donc la start-up qui est à l'origine de ChatGPT, et à l'origine d'ailleurs, il y a des chercheurs de chez Google,
oui.
Quand même, quand on fait tout ce petit circuit, Microsoft va donc intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, et elle va l'intégrer aussi dans son navigateur Edge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va avoir accès à tout un tas de documents. Souvent, sur le navigateur Internet, vous allez par exemple télécharger des documents PDF. Eh bien, ChatGPT va vous proposer de les traduire. Il parle déjà 100 langues. Ou de les résumer. Et puis, on peut imaginer derrière, quand ils intégreront ça aussi à Word ou Excel. Avec Bing, ben, vous allez faire une demande. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir échanger complètement. Alors, on ne sait pas encore comment ça va apparaître. Est-ce qu'il y aura une ligne Bing et puis une ligne ChatGPT? Mais voilà, soit vous dites ben voilà, le 90 minutes business, ou alors qui présente le 90 minutes business, voilà, ce sera du linéaire autour de tout ça. En tout cas, on va voir beaucoup d'innovation dans cette partie, et puis en plus on va aller plus loin, puisqu'aujourd'hui vous savez ChatGPT s'arrête à 2021.
Oui.
Tout l'historique a été travaillé à partir de là. Et là, bah, si Microsoft l'intègre dans son moteur de recherche Bing, bah, ça va être tout Internet sera connecté.
On parle ici d'une rupture technologique en intelligence artificielle, mais peut-être même que ça va toucher l'Internet l'Internet que nous connaissons.
Oui, exactement. Moi, je pense qu'on est vraiment peut-être... Alors, on aime bien les journalistes, c'est date un peu dire l'an 1 de la nouvelle intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'au-delà de tout ce que l'on voit avec les capacités de ChatGPT, aujourd'hui, on sait que tous ces moteurs de recherche sont bâtis, par exemple, sur la publicité. Et les sociétés font de la pub. Mais si on commence à avoir un échange avec le site Internet, avec le moteur de recherche, où va se glisser la publicité. Donc ça veut dire qu'il va complètement falloir repenser les sites internet, les sites de shopping aussi, qui vont devoir repenser tout ça, les sources d'information aussi, parce que lorsque je me rends sur le site de BFM Business, je sais d'où viennent les sources, mais lorsque je vais être en échange, qui est la source derrière? Alors il y a tous les problèmes d'éthique, de fake news, de savoir aussi à qui est-ce qui va les droits d'auteur, qui est-ce qui va falloir rémunérer. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions, et on va voir un peu comment tout ça va se réguler un peu au fil des prochains mois.
Jean-Marc.
Oui, par rapport à ce que vient de dire Frédéric, je dirais deux choses. La première, c'est que on est dans un processus typiquement schumpeterien. C'est-à-dire, il y a eu un entrepreneur, un innovateur, et puis maintenant, la validation de ce qu'il a fait est faite par l'émergence d'un imitateur. Il y a des gens qui apparaissent et qui disent, je vais faire la même chose. Même l'imitateur va beaucoup plus loin. Il débauche une partie des salariés de l'entrepreneur de la phase initiale pour essayer de récupérer le savoir-faire et pour se mettre en concurrence immédiate avec l'entrepreneur. Donc, finalement, l'économie, ça fonctionne comme dans les livres. Ça, c'est assez rassurant. La deuxième chose, c'est que justement, la question que se posent les livres, c'est tous ces nouveaux produits, comment est-ce qu'on va trouver un prix? Et c'est assez difficile à définir. Et il y a de plus en plus d'économistes qui disent qu'on va aller de plus en plus vers une société d'abonnement. Mm-hmm. On s'abonnera à tout un tas de choses, oui. Avec le fait que les gens auront la perception que les dépenses contraintes sont de plus en plus importantes. Ils auront fait le choix de faire l'abonnement, mais ils auront l'impression qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Et donc, il y a une véritable réflexion à avoir sur quel est le bon prix.
On va y revenir à 12h40, ce sera l'objet de notre débat. Tout de suite, merci Frédéric. Tout de suite, on fait un point Euronext. Avec vous Antoine-Marie Gaudry, une belle séance à la Bourse de Paris. Un CAC 40 qui, après une matinée un peu inégale, renoue quasiment avec les 7200 points.
On a 7182, effectivement, Sandra. On est en hausse de 0,7%. C'est vrai qu'on a un petit peu hésité depuis l'ouverture, mais on a opté pour la hausse avec une hausse de 0,6% pour l'Eurostock 50, le DAX à Francfort plus 0,87%. Alors, on est dans le sillage du très net redressement de Wall Street hier soir et puis de l'impact positif des résultats d'entreprise. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de Total et de Société Générale, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas ça qui sert de catalyseur direct au CAC 40, vu que ces deux titres, mais il s'affiche en baisse. Société Générale est en repli de 0,9% à 27,78 €. Là, on peut y voir sans doute l'effet de prise de profit, vu que le secteur bancaire est sans doute, avec celui du luxe, celui qui a le plus progressé depuis le 1er janvier. Donc, on préfère vendre la nouvelle. C'est vrai que les prestations et les performances de Société Générale étaient quand même très, très solides, hein, hors exceptionnel. Total aussi, malgré son record historique en matière de profit, est vendu ce matin et perd 2% à 56,36 €. Il y a aussi pas mal de questions et d'arbitrage autour de la stratégie future du groupe pour les 20-30 prochaines années. On en reparlera d'ailleurs à 12h30. Et si l'Orlousotica signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 1,99%, 176,60 €, on a BNP Paribas dans le secteur bancaire qui poursuit à la hausse à plus 1,6%. On est en ce moment à 63,32 €, à noter Orpea, toujours en forte baisse, hein, sur le SBF. Le titre perd encore 7,6% et tombe à 2,16 €. Le CAC, donc plus 0,7%, 7,5%.
Merci Antoine. Un petit problème de deux micros, on vous récupérera à 12h30. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Puis hier, Jean-Marc, on parle de chiffres stratosphériques. Là, c'est un déficit. Hein.
Oui, absolument.
On a eu le nôtre. Celui des États-Unis, c'est presque 1 000 milliards.
Oui, le déficit extérieur. Déficit extérieur. À la fois le commerce et puis les échanges de biens et de services. Et donc, en particulier, c'est une année qui est assez favorable pour les États-Unis en termes de tourisme. Le tourisme revient. Et je rappelle quand même que les États-Unis, c'est la première destination touristique du monde. Et malgré cela, et malgré le fait que les États-Unis sont aussi le premier producteur mondial de pétrole, donc la facture pétrolière s'est considérablement réduite, on arrive à un déficit de la balance des paiements courants des États-Unis de 948 milliards de dollars. On a, alors là, on n'a jamais vu ça.
Record battu.
On est à des niveaux de rapport au PIB également qui sont extrêmement élevés. Et donc, un certain nombre d'éditorialistes américains s'interrogent. Ils disent, est-ce que c'est tenable? Est-ce que ça peut durer comme ça durablement? Est-ce que, si la réponse est non, ce que la plupart des gens considèrent, est-ce qu'on va vers une véritable crise du dollar, c'est-à-dire une baisse rapide du dollar par rapport aux principales monnaies, notamment par rapport à l'euro et par rapport au yen japonais? Est-ce qu'il faut prendre des mesures protectionnistes? Et donc, c'était le choix qui avait été fait par Trump, et c'est plus ou moins
conservé par Joe Biden.
Voilà, Joe Biden qui repart dans des idées qui sont des idées protectionnistes. Alors, il y a un vrai problème, c'est que l'Amérique vit au-dessus de ses moyens. Il faudrait calmer le citoyen américain, lui expliquer que, comme vous citoyens français, on ne peut avoir de revenus que si on travaille. Et contrairement à ce qu'on pense, la productivité de certains secteurs aux États-Unis est plutôt sur le déclin. Ouais. Donc, l'Amérique aurait besoin de se remettre au travail, même si le drame n'est pas aussi frappant que pour la France. Et puis, alors, il y a une chose qu'on a découverte dans ces chiffres. Si tout le monde dit, c'est la Chine. Et pas du tout. Les Américains disent, non, mais les Chinois, mais ceux qui avancent de façon tout à fait masquée, qui sont en réalité à l'origine de notre déficit extérieur, qui sont nos principaux fournisseurs et qui n'hésitent pas à augmenter leur prix, c'est qui? Ce sont les Européens. Oui. Le principal poste d'importation des États-Unis, c'est l'Union Européenne. Alors pourquoi? Parce que l'Union Européenne exporte des produits plutôt d'assez bonne qualité dont les prix ont tendance à augmenter. Pour l'instant, la Chine est sortie du bas de gamme qui est de plus en plus maintenant réservé aux pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam ou l'Inde, mais elle est encore sur des produits dont la valeur, les prix sont pas très élevés. Oui. Et donc, elle fait beaucoup de volume, mais assez peu de prix, de chiffre d'affaires. Et donc, c'est la bonne vieille Europe qui, de nouveau, profite de la situation du commerce mondial. Je tiens à le rappeler parce qu'il y a quelques individus à Paris, mais pas à La Haye, heureusement pas à Berlin, heureusement pas à Rome, qui n'arrête pas de dire, on devrait faire du protectionnisme. Mmh. J'ai dit, écoutez, arrêtez de vous tirer une balle dans le pied. Le commerce international, c'est une des choses qui marche le mieux en Europe.
Eh bien voilà, ça c'est dit. Allez, dans un instant, on va parler aérien et particulièrement de ces petites lignes domestiques entre régions qui résistent bien malgré une mise en concurrence avec le train pour des raisons écologiques. Nicolas Polissen, le délégué général de l'Union des aéroports français, sera notre invité dans 2 minutes. Et puis 12h55, deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Lorraine, vous aidez à recruter, vous répondez aux questions aussi de nos auditeurs téléspectateurs. Vous allez parler des entretiens d'embauche aujourd'hui.
Et oui, on va rebondir à ce que Patrick nous a écrit. Aujourd'hui, être chercheur d'emploi vous demande de l'énergie, du moral, de la méthode, du réseau, de l'investissement financier et surtout de la chance, beaucoup de chance. On va parler du recrutement et du ghosting, c'est-à-dire le fait d'être un candidat fantôme, de ne plus répondre dans le processus de recrutement ou d'être un recruteur injoignable. Voilà comment on trouve du boulot dans ce contexte. Comment on se remet au travail, pour reprendre ce que vous disiez, Jean-Marc.
Et vous posez toutes vos questions à Lorraine à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Elle y répond pendant l'émission. Allez, à tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
Avec nous ce midi, Nicolas Polissen, délégué général de l'Union des aéroports français. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous représentez 150 aéroports adhérents en France. Ce qui a attiré notre attention, c'est le trafic aérien en France. Non, les appels au train n'ont pas tué le trafic aérien. Au contraire, le train a bien pris sa place dans nos voyages entre Paris et la région. Mais on continue à prendre l'avion massivement, notamment sur ces liaisons interrégionales. C'est ce qui ressort d'une étude sur le trafic sortie cette semaine, Nicolas Polissen.
Oui, donc le premier enseignement de cette étude conduite par le cabinet Oxera montre que la dynamique de croissance est du côté des liaisons aériennes transversales, c'est-à-dire région-région. On parle là de liaisons comme Bordeaux-Nice, La Rochelle-Marseille, donc toutes les liaisons interrégionales. Et les liaisons transversales prennent une part de plus en plus importante dans le trafic domestique, hein, puisque le trafic domestique représente à peu près 15% du trafic total français. Et les lignes transversales aujourd'hui dans ce trafic domestique représentent près de 40% du trafic passager. Donc on voit que ça représente déjà une part importante. Et si d'ailleurs dans le trafic radial, c'est-à-dire Paris-Région, on enlève les passagers en correspondance, la part des transversales serait encore plus importante dans le trafic domestique français. Et la dynamique, elle est véritablement du côté des lignes transversales, puisqu'entre 2010 et 2019, on a eu une augmentation de 72% du trafic passager de ces lignes. ligne, contre 5% seulement pour le trafic domestique radial.
Un succès qui vient du trafic SNCF, qui lui est très concentré justement sur ces liaisons entre Paris et la région. Finalement, vous bénéficiez, vous, de l'offre que vous apportez entre les régions, qui n'existe pas réellement sur le train avec le TGV.
Alors, cette enquête illustre aussi à nos yeux la complémentarité entre le rail et l'aérien. Oui. Les liaisons interrégionales répondent à un besoin de mobilité rapide des Français auquel le rail ne peut pas répondre efficacement sur ces liaisons, parce que c'est vrai que le réseau ferré français est concentré sur Paris et sa région. Donc, on parle beaucoup, on oppose souvent aujourd'hui le rail et l'aérien.
Les politiques ont opposé le rail et l'aérien.
Les politiques notamment, oui. Effectivement. Alors même que pour nous, il y a une complémentarité entre ces modes de transport, notamment sur ces liaisons transversales, où si vous prenez un Nantes-Nice ou un Nantes-Lyon, vous avez plus de 6 heures de train.
Pierre, vous vouliez réagir.
Au-delà du temps passé dans le train, il y a aussi une notion de prix, de tarifs, c'est-à-dire que ce qui apparaît, parce que notamment une partie de ces liaisons sont assurées désormais par des compagnies low cost, ce qui apparaît, c'est que les tarifs sont bien plus bas quand on prend l'avion que quand on prend le train.
Nicolas Polissel, les prix sont compétitifs
pour faire le trajet.
Alors, il est vrai que ce sont les compagnies low cost qui offrent beaucoup de capacités en siège. Hein. Les compagnies low cost représentent plus de 54% de l'offre de siège sur ces liaisons transversales. Et évidemment, avec le modèle low cost, vous avez la possibilité de proposer des tarifs attractifs pour les Français qui ont besoin de mobilité rapide. Bon, néanmoins, il faut quand même reconnaître que la question de la durée du trajet est important. Il n'y a pas que le tarif, notamment. Hein, on voit bien que, par exemple, quand on prend le trafic radial, c'est-à-dire région Paris, sur les 12 liaisons où vous avez une alternative ferroviaire de moins de 4 heures, oui. 85% des passagers, ce sont les trains. Voilà, donc il faut quand même reconnaître que cette durée du trajet est importante également dans le choix des Français, dans le choix des modes.
Oui, concrètement, bon, il y a plus de Paris-Lyon en avion pratiquement, il y a de moins en moins de Paris-Nantes et Paris-Bordeaux. Est-ce que ces aéroports se développent uniquement sur province à province, ou est-ce qu'ils essaient de s'internationaliser, puisque il n'y a pas que Nantes-Nice, mais on peut faire Bordeaux-Londres, on peut faire Nantes-Francfort, ou est-ce que effectivement ils ont subi le choc et puis progressivement ils se remettent, mais est-ce qu'ils ont une marche dynamique pour essayer de trouver de nouvelles liaisons, d'intéresser les compagnies aériennes à de nouvelles liaisons?
Alors, vous avez raison de signaler que là où le train est pertinent, là où le TGV est pertinent, vous n'avez plus de passagers aériens, par exemple entre Strasbourg et Paris ou entre Lille et Paris. En revanche, les aéroports régionaux se développent également sur le court courrier européen, donc les Bordeaux-Venise, les Lyon-Milan, voilà, ce type de liaison aérienne. Il n'y a pas non plus que les liaisons transversales domestiques. Il y a également le court courrier européen. Et ça, c'est aussi une carte que jouent beaucoup les aéroports régionaux, notamment.
Et dans un dernier rapport, la Cour des comptes, alors peut-être que vous affirmerez ça, disait qu'en fait, il y a beaucoup d'inégalités dans l'évolution des aéroports et qu'il y a de très petits aéroports dont on se demande pourquoi ils existent encore, qu'il y a encore un maillage d'aéroports, mais qu'on fait vivre artificiellement des petits aéroports avec une espèce de sentiment de fierté nationale, régionale. On a un aéroport, et donc le destin des aéroports est en train de s'élargir très largement, très, très fortement.
Alors, cette idée reçue, c'est parce qu'on voit les aéroports uniquement à travers le trafic commercial. Aujourd'hui, les aéroports n'ont pas tous vocation à faire du trafic commercial. Il y a des aéroports qui peuvent se spécialiser dans l'aviation générale et d'affaires, par exemple. Et il y a également des aéroports qui sont aujourd'hui des zones aéro-industrielles et qui permettent justement l'implantation d'industries, d'entreprises liées à l'activité aérienne. Vous avez également beaucoup d'aéroports qui jouent un rôle d'intérêt général avec toute la question des évacuations sanitaires, de ce qu'on appelle également le travail aérien, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'entreprises qui travaillent avec l'avion, par exemple pour surveiller les lignes à haute tension ou pour intervenir dans les stations de ski en matière de secours, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas regarder les aéroports uniquement à travers le trafic commercial. Tous n'ont pas vocation à accueillir des passagers, si je puis dire.
Merci beaucoup, merci Nicolas Polissel d'être venu nous voir, délégué général de l'Union des aéroports français. Tout de suite, le top 3 du web.
90 minutes business, le top 3 du web.
Le retour de Pierre Kupferman sur ce plateau. Pierre, on est ravis de vous retrouver pour ce moment préféré de Jean-Marc et Daniel. Et on commence ce top 3 par cette manifestation des agriculteurs à Paris. Oui, c'était ce matin.
Ben oui. Et au dernier comptage, eh bien, on a compté dans les rues de la capitale près de 500 tracteurs et autour de 2000 paysans qui ont répondu présents donc à l'appel à manifester lancé par la FNSEA. À l'origine de cette mobilisation, vous avez la décision du gouvernement le 23 janvier de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes, c'était un peu difficile à dire ça, pour la culture de la betterave sucrière. Le gouvernement, en fait, n'avait pas vraiment le choix, hein, puisque c'était une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui avait estimé illégale cette dérogation accordée par la France. Mais la FNSEA mobilise aussi ses troupes sur d'autres contraintes auxquelles le monde agricole doit faire face. Alors, il y a les contraintes réglementaires, par exemple en matière d'irrigation, en matière d'intrants, en matière de normes sur les bâtiments d'élevage. Alors, cette question à Jean-Marc, la FNSEA est-elle d'ailleurs la seule organisation à manifester contre l'interdiction, je parle d'aujourd'hui, hein, l'interdiction des néonicotinoïdes?
Ah, il va y avoir d'abord des partis politiques. Je pense que l'extrême droite soutient le monde paysan. Et puis, il n'y a pas qu'elle comme syndicat. Hein.
Alors,
elle est là. Il reste un syndicat d'obédience communiste.
Alors, vous allez voir. Il y a d'un côté la coordination rurale. C'est le deuxième syndicat.
Absolument.
Ce deuxième syndicat voulait se joindre à la manifestation de la FNSEA. Mais la FNSEA a dit non, c'est nous et pas les autres. Et puis, il y a la Confédération Paysanne, donc effectivement ce troisième syndicat agricole qui est plus à gauche, clairement, et qui est, pour le coup, totalement opposé à l'utilisation de cet insecticide. Comme ça, vous avez les trois principaux syndicats.
Voilà, la seule réflexion que je ferai, c'est que je pense qu'on ne fera pas de l'écologie contre les paysans. J'ai d'ailleurs écrit un livre pour ce sujet, en disant que j'appelle les pagano-gauchistes, les gens qui ont une vision de la nature totalement païenne, totalement religieuse, et qui en plus rêvent d'abattre le capitalisme, jouent contre l'écologie plutôt que pour l'écologie.
On continue ce top 3 avec les bénéfices record de Total, Pierre.
Oui, alors plus de 20 milliards de dollars de résultats nets, hausse de 28%, mais quand même rappeler que Total, à la différence de ses grands concurrents, a été d'un côté favorisé, alors comme tout le monde, par l'augmentation des cours du pétrole et du gaz, mais pénalisé financièrement par la guerre en Ukraine, puisque son retrait de Russie lui aura quand même coûté 15 milliards de dollars. Bon, compte tenu de ces résultats, Total Energy va quand même gratifier ses actionnaires d'un dividende total de 3,81 € par action au titre de l'année 2022, dont 1 euro en dividende exceptionnel, on le rappelle, dividende qui a déjà été versé en décembre dernier, dividende en très nette hausse, sachant que le groupe va aussi continuer à racheter ses actions et que, d'un autre côté, il augmente ses investissements, mais pas de façon aussi spectaculaire que sont choyés ses actionnaires. C'est une bonne stratégie, Jean-Marc?
Ah, c'est une excellente stratégie pour la planète. Écoutez, les actionnaires de Total vont pouvoir investir dans des entreprises qui préparent la transition écologique et qui préparent la lutte contre le réchauffement climatique. J'associe ce genre de décision à une décision récente que je commente régulièrement depuis les deux ou trois jours où on parle de Total, où les producteurs de charbon ont dégagé 100 milliards de dollars de bénéfices à la surface de la planète. Et ils ont annoncé qu'ils allaient les redistribuer sous forme de dividendes, parce que il leur paraissait pas sain que eux, producteurs de charbon, investissent dans leur métier, qui est d'augmenter la production de charbon. Que les actionnaires de Total se voient gratifiés d'une certaine somme qui va leur permettre d'investir dans les panneaux solaires, ça me paraît une bonne nouvelle.
Et on finit avec ce concurrent de Dunkin' Donuts qui débarque en France, Pierre.
Oui. Et donc les Parisiens et les touristes qui viennent dans la capitale vont être...
Toutes les semaines, il y en a un qui débarque.
Oui, exactement, hein. C'était Wendy's la semaine dernière.
Oui, absolument.
Alors, donc, il s'appelle comment ce... Je vous pose la question, Jean-Marc, ce concurrent de Dunkin' Donuts.
Et alors, je ne sais même pas ce que fait Dunkin' Donuts.
Ah, ça, c'est des donuts, peut-être.
C'est des donuts.
Là.
Comment voulez-vous que j'imagine ce que fait faire le concurrent? Je ne sais pas.
Mais si vous étiez allé aux États-Unis, vous en auriez vu. Ça s'appelle Krispy Kreme. Et donc, d'ailleurs, l'annonce a été faite sur notre antenne. Hein. Alexandre Mézouet, qui est directeur général de Krispy Kreme France, nous a dévoilé son plan d'action pour son débarquement en France. La France sera le premier pays de l'Union européenne où on va pouvoir trouver ces boutiques. Alors, il y a une promesse très simple de Krispy Kreme, c'est des beignets ronds ultra frais, puisqu'ils sont tous fabriqués le jour même, parfois même devant les clients. Chris Plukem est quand même né en 1937 en Caroline du Nord, présent dans une trentaine de pays. Je vous le disais, aucun dans l'Union Européenne, ils sont présents au Royaume-Uni. 11 000 points de vente au total, 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est une très grosse entreprise. Et ils espèrent ouvrir 8 grandes boutiques à Paris, avec quelque chose qui va... Est-ce que ça vous parle plus, ça, merveilleux de Fred ?
Pas vraiment. Oh,
vous savez, les merveilleux qu'on fabrique devant vous.
C'est ces gâteaux avec de la meringue et de la crème fraîche qu'on fabrique devant vous. Mais, en fait, on va théâtraliser un petit peu la fabrication de ces Krispy Kreme comme on le fait dans ces...
Jean-Marc, il faut lui dire que ça va entrer en concurrence avec le cannelé et là, il va réagir.
Ah mais exactement. Ah. Alors là, de toute façon, on ne peut pas faire concurrence au cannelé. Il y a une sorte de monopole de savoir-faire. Donc, ils peuvent arriver. Hein,
oui, mais Bayer-Brand ne les fabrique pas sur place.
Ah, non, c'est vrai. Ce sera la subtilité. Merci Pierre, vous restez avec nous pour le débat dans un instant. Tout de suite, le rappel des titres.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Vendredi, dans les pionniers chez Fred Mazzella.
Une américaine visionnaire qui a parié sur l'écosystème tech français. Elle a lancé et dirige aujourd'hui le plus grand incubateur de start-up au monde, Station F. Je recevrai Roxane Varza.
Roxane Varza, directrice de la Station F dans les pionniers chez Fred Mazzella. Vendredi à 19h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux. BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, ce sont les résultats historiques de Total Energy. Le groupe affiche le meilleur bénéfice de son histoire en 2022 à 20,5 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an, tiré par les prix et l'augmentation de la production. Jusqu'à 40% des bénéfices devraient revenir aux actionnaires, dont 2 milliards de dollars de rachat d'actions au premier trimestre. Patrick Pouyanné n'exclut pas des dividendes exceptionnels cette année. On écoute le patron de Total Energy.
You will notice that we have the strongest.
Vous constaterez que nous avons la plus forte augmentation de trésorerie de toutes les majors et de loin, et nous avons le plus fort retour sur investissement des capitaux engagés, un mouvement de 28%, ce qui démontre que nous pouvons combiner forte rentabilité et forte accélération vers la transition énergétique.
Combine profitability, strong profitability and transition to new energies.
Patrick Pouyanné ajoute que des tensions sont possibles sur le marché du GNL en milieu d'année. Sur la demande de pétrole, elle continue de progresser et devrait atteindre un record en 2023. Enfin, Patrick Pouyanné dit envisager de nouvelles mesures de rabais à la pompe si le litre de gazole repasse au-dessus des 2 euros. Autre résultat record pour Maersk, cette fois le géant du transport maritime enregistre le meilleur bénéfice de son histoire à plus de 29 milliards de dollars, en hausse de 63% sur un an. Performance liée à l'augmentation des prix du fret par conteneur. Dans le secteur bancaire, Société Générale fait mieux que prévu. Le produit net bancaire équivalent du chiffre d'affaires ressort à 28 milliards d'euros, en hausse de près de 9% sur un an. Mais le bénéfice net est quasiment divisé par 3 à 2 milliards d'euros, plombé par la cession de sa filiale russe Rosbank. La banque confirme ses objectifs pour 2025. De son côté, Amundi publie un bénéfice net en recul de 20% sur un an à plus d'un milliard d'euros. C'est néanmoins mieux que prévu. Le leader européen de la gestion d'actifs enregistre une collecte nette de 15 milliards d'euros au quatrième trimestre. En France, Clarins va ouvrir une deuxième usine. La marque de cosmétiques va installer un nouveau site de production à Troyes dans l'Aube, moyennant 135 millions d'euros d'investissement, avec à la clé la création de 300 emplois. La mise en production est prévue à l'automne 2024. En revanche, dans le retail, les enseignes en difficulté se multiplient. La marque de chaussures André est à nouveau placée en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce de Nanterre. La maison mère a déclaré la cessation de paiement le 27 janvier dernier. Le coup de frein de l'emploi salarié privé au quatrième trimestre, il ressort stable après 7 trimestres consécutifs de nette hausse. Dans le détail, l'intérim augmente de nouveau alors que l'emploi dans l'industrie et le tertiaire ralentit. Et puis la mobilisation contre la réforme des retraites va se poursuivre dans les raffineries. La CGT de Total Energy reconduit le mouvement. Les expéditions de carburant vers les dépôts sont suspendus aujourd'hui sur 4 sites. On jette un coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC évolue dans le vert, plus 0,5%, 7168 points, Sandra.
Merci beaucoup, Stéphanie Collo.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Et c'est l'heure de rejoindre Antoine Larigauderie en direct d'Euronext. Antoine, vous revenez et bien sûr les bénéfices record des pétroliers. Antoine, avec les derniers chiffres évidemment de Total Energy.
Oui, effectivement, et c'est vrai que ce matin, on a pu entendre ces considérations autour de la décence ou de l'indécence des profits de Total. Bon, on serait tenté de dire que tout ça, c'est des considérations plus politiques ou morales qu'autre chose. Ce qui aurait été vraiment indécent, c'est que Total ne puisse pas dégager de bénéfices records, alors qu'on a eu des hausses absolument incroyables du côté du prix des hydrocarbures. Ça aurait plutôt été le contraire qui aurait été indécent. Non, là où se pose véritablement la question, c'est sur la redistribution des profits, et là, il y a effectivement des interrogations légitimes. Alors, les dividendes, les rachats d'actions. Les dividendes, c'est la rémunération du capital, donc par exemple, un des premiers actionnaires de Total, c'est quand même les salariés de l'entreprise. Qu'ils puissent croquer très légitimement des profits de leur entreprise, ça paraît légitime. Les rachats d'actions, ça l'est un petit peu moins et ça pose un petit peu plus de questions. Parce que parallèlement, il y a la troisième question qui est celle de l'investissement. Et là aussi, deux grandes pistes pour les prochaines décennies à venir pour Total. Premièrement, continuer à investir dans le pétrole, qui est une énergie qui est de plus en plus rentable en ce moment, étant donné qu'il y a des besoins considérables pour financer la croissance économique des années à venir dans tout un tas de parties du monde. On le rappelle, 75 ou 80% de l'activité économique mondiale est directement alimentée par les énergies fossiles, encore malgré la transition énergétique en cours. Transition énergétique, ça aussi, c'est la bonne question à se poser pour Total, parce que on voit que le groupe y investit, mais peut-être pas de manière forcené, on va dire. Et Total remarque que les énergies vertes restent quand même très chères, très difficilement valorisables. Mais c'est peut-être là que se situe le point d'attaque pour Total et pour une éventuelle analyse critique de ces investissements. Parce que si on n'investisse pas un bon coup massivement sur les énergies renouvelables, on aura toujours des doutes sur leur niveau de valorisation et savoir si c'est des investissements rentables ou pas. Une fois qu'on a mis un prix sur l'investissement, une bonne fois pour toutes, là, au moins, on a de quoi se jauger. Donc, c'est peut-être là que se situe un éventuel point d'attaque autour de ce que pourrait faire Total dans les dizaines d'années à venir.
Jean-Marc.
Oui, non, je reviens là-dessus abondamment, régulièrement. L'argent que l'on donne aux actionnaires, l'argent que l'on donne sous forme de rachat d'actions à ces 10 actionnaires sous forme de dividendes, il est réinvesti. Il n'y a pas, il disparaît pas comme ça dans des lessiveuses installées au fond d'un jardin. Il est réinvesti et il vaut mieux le confier à des actionnaires, parce qu'ils vont le réinvestir justement dans des secteurs qui sont des secteurs qui sont, eux, porteurs de la transition écologique, porteurs de l'abandon du carbone. Je crois qu'il y a un vrai enjeu. Hein. Les gens, il y a plusieurs rapports qui le disent bien. Tout ce que les compagnies pétrolières arrachent, ça détruit la planète. Et dire qu'elles, comme l'a dit le président des États-Unis, elles pourraient faire davantage, on sait déjà que si on brûle un tiers des réserves de pétrole prouvées, on aura 5 degrés de plus à la surface de la planète. Donc, on le brûlera pas. C'est pas vrai. Donc, ça sert à rien de dire ils investissent pas assez. Ils investissent trop.
Ils font partie de ceux qui investissent.
Il faut investir ailleurs. Oui. Et s'ils investissent plus, il faut qu'ils investissent ailleurs. Mais il faut arrêter de forer, de prospecter, de détruire la nature. C'est vital.
Merci Antoine. Pierre, une réaction rapidement.
Le président Joe Biden a annoncé un quadruplement de la taxation des rachats d'actions. Donc on passe de 1% à 4%, c'est pas le cas en France. Est-ce que c'est une bonne idée pour le fisc français pour faire rentrer davantage d'argent dans les caisses par rapport au profit de Total?
Non, mais juste moi une réaction à cette idée qu'il faille et puis après Antoine réagira, mais qu'il faille
très vite, messieurs, on est en train.
Oui, qu'il faille systématiquement augmenter les impôts, trouver des moyens, mais enfin je veux dire, est-ce que l'État utilise suffisamment bien l'argent pour qu'on ait envie de lui en confier davantage?
Antoine, ça fait débat sur le plateau.
Oui, en effet. Une phrase que je répète aussi assez souvent, c'est que Total a beau peut-être pas assez investir au goût de certains en matière d'énergie renouvelable, sur les 5 dernières années, Total a plus investi dans les énergies vertes qu'EDF.
Et oui, bien sûr. Merci beaucoup Antoine. Larigauderie, elle est dans un instant en notre débat, la bataille de l'intelligence artificielle que font les concurrents de ChatGPT. Eh bien, ils sortent tour à tour leur robot conversationnel. On va en parler dans un instant. À tout de suite.
90 minutes business, le débat.
L'intelligence artificielle, on en parle avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et Charles Sterling, consultant data, créateur de contenu qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Charles. Charles, je commence par vous. C'est simple, hein, il n'y a pas une journée sans qu'on parle d'intelligence artificielle, de ce robot conversationnel qu'est ChatGPT. Entre ceux qui s'y attaquent, ceux qui veulent y participer, ceux qui vont sortir leur propre version, c'est inévitable en ce moment.
Clairement, en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue le nouveau champ de bataille des géants d'Internet. Et vraiment, la guerre est définitivement lancée, puisque, par exemple, suite au succès fulgurant de ChatGPT, qui a atteint en 2 mois donc 100 millions d'utilisateurs, lundi, Google a annoncé son concurrent, qui s'appelle donc Bard, et son nouveau robot conversationnel, qui devrait être intégré donc à terme directement dans le moteur de recherche. Donc, il ne faudra même pas aller sur un site Internet supplémentaire. Et la différence avec ChatGPT, qui n'avait que des données jusqu'en 2021, là, Bard devrait être mise à jour régulièrement.
Avec les données de Google.
Exactement. Donc, ça pourrait donner des réponses bien plus détaillées et donc mises à jour. Mais ne pensez pas que c'est seulement une guerre américaine, puisque hier, Baidu a bondi de 15% en bourse, tout simplement car Baidu a annoncé le lancement de son propre robot conversationnel, Ernie, qui devrait être disponible dès mars 2023.
Et à côté de cela, Pierre, il y a Microsoft qui, lui, veut intégrer ChatGPT tel qu'il est à ses appareils.
Alors, on peut le comprendre, hein, c'est vraiment un moyen de faire en sorte que Bing ne soit pas un échec définitif, puisque jusqu'à maintenant, on peut considérer que c'est Google qui avait gagné la bataille face à Microsoft. Alors, quelques chiffres. Hein, on sait que Microsoft avait déjà investi $1 milliard dans l'entreprise OpenAI, Artificial Intelligence, qui contrôle ChatGPT, mais qui compte aller bien au-delà, puisque il y a un mois maintenant, Microsoft a engagé des discussions avec l'un des fondateurs, pour être précis, de ChatGPT, Sam Altman, avec un objectif très clair, hein, c'est de prendre une participation de 49% pour $10 milliards. Parce que ça change la donne, ça les vaut bien, si je puis dire. Alors, c'est embêtant, effectivement, si ça se passe comme ça, si effectivement ChatGPT intègre Bing et ça en fait un vrai concurrent pour Google, c'est embêtant immédiatement par rapport au modèle publicitaire de Google, puisque vous savez que la moitié des recettes de Google sont générées par des liens vers des sites marchands. Donc si, effectivement, une partie des utilisateurs de Google vont vers Bing, ça posera un problème à Google. Mais, j'ai envie de dire, ça pose aussi un problème de quel est le modèle économique viable pour ChatGPT ? Est-ce que c'est un modèle payant ? Est-ce que c'est réaliste d'aller vers un modèle payant dans l'univers d'Internet où la gratuité est un peu quand même devenue la règle ?
Oui.
Enfin, je trouve que on a un bon paysage qui s'ouvre, nouveau, mais on n'a pas toutes les réponses.
Jean-Marc, et après on va retrouver Annalisa qui va nous parler de ce prix.
Il y a deux enjeux dans cette affaire. Il y a l'enjeu effectivement de l'introduction de la concurrence, ça c'est une bonne chose. Mais on est dans un schéma économique que les économistes disent bien, comme n'étant pas traditionnel, comme les produits marchands habituels, où il y a des rendements décroissants. Il faut mobiliser des gens de moins en moins efficaces. Chaque client nouveau coûte. Là, un client nouveau ne coûte rien. Et donc on est dans ce qu'on appelle des rendements croissants. Et donc la théorie économique dit il n'y a pas de véritable prix naturel qui émerge. Et la seule façon qu'on a, c'est de faire des formules d'abonnement. Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que tous ces gens vont mettre en place des formules d'abonnement, ce qui a commencé notamment dans les télécoms. Et alors, avec sur le plan, je dirais, de politique au quotidien, le consommateur, à ce moment-là, vit comme ça, comme étant des dépenses contraintes. Quand vous dites aux gens, il y a des dépenses contraintes, on peut penser que la consommation alimentaire est une dépense contrainte. Mais non, ils vous disent, il y a le smartphone qui est une dépense contrainte, il y a Netflix qui est une dépense contrainte.
Ouais.
Donc tout ça devient une dépense contrainte et donc même le consommateur finit par être totalement absent de la décision finale.
Et Annalisa s'est intéressée à la question. Annalisa Capitani, ChatGPT pour le moment il est gratuit, hein. Tout le monde peut l'utiliser sur simple inscription, ça pourrait ne pas durer, Annalisa.
Exactement, parce que ChatGPT a lancé une version payante, ça s'appelle ChatGPT Plus et c'est le premier plan payant pour ce logiciel. Il s'agit d'un abonnement qui va coûter $20 par mois et qui pour le moment sera accessible uniquement aux États-Unis. Mais OpenAI prévoit d'ores et déjà de l'étendre à d'autres pays. Il y aura plusieurs avantages dans cette nouvelle formule. Tout d'abord, les abonnés pourront utiliser ChatGPT même lors des pics de trafic. Ils vont bénéficier ensuite de temps de réponse plus rapide par rapport à ceux qui ne sont pas abonnés et ils auront un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et aux améliorations.
Ah oui, de meilleurs services, hein, finalement. Mais la version gratuite pour autant de ChatGPT ne va pas disparaître, Annalisa.
C'est en tout cas ce que déclare OpenAI, hein, qui dit vouloir continuer à proposer cette version gratuite de ChatGPT, financée aussi grâce aux rentrées d'argent générées par les abonnements. Et ben, cette version gratuite sera disponible pour le plus grand nombre de personnes possible. Mais surtout, ce qui se profile, c'est une offre d'abonnement à la carte avec différents packs proposés à différents prix, finalement comme beaucoup de services en ligne plus traditionnels, Spotify ou Netflix. Un changement de modèle économique qui semblait nécessaire pour ChatGPT pour commencer à monétiser, puisque la plateforme a choisi de ne pas se financer avec la publicité. Et donc, une monétisation d'autant plus nécessaire que OpenAI se propose des objectifs très ambitieux. Vous le voyez, c'est $1 milliard de chiffre d'affaires en 2024. Et pour ce faire, il faut aussi rattraper des coûts qui sont considérables pour la version gratuite, avec ses 100 millions d'utilisateurs uniques par mois qui coûtent $3 millions par mois à OpenAI.
Eh oui, $100,000 par jour, Charles Sterling. Ça coûte ça pour le moment, ChatGPT. Donc effectivement, c'est quoi le bon prix, comme demandait Jean-Marc ?
Mais c'est vrai que ça semble un peu compliqué de savoir le bon prix, mais ouais. À terme, en fait, par exemple, hier, j'ai voulu utiliser ChatGPT, c'était impossible parce que le serveur était surchargé. Donc en fait, à terme, tout le monde va soit se tourner vers ChatGPT.
Ça ne va pas s'arranger.
Qui est plutôt bien, mais tout simplement, si vous me dites ensuite que Bard, potentiellement de Google, sera beaucoup plus souvent mis à jour, peut-être de meilleure qualité, mais peut-être que ChatGPT à terme va perdre des utilisateurs, donc peut-être que les prix vont ensuite s'adapter. Et sachant que tout le monde est en train de sortir des intelligences artificielles, il faut voir un peu sur le long terme, et ensuite pouvoir les comparer, parce que les prix actuellement, en général, facturent entre $10 et $20 par mois. Un peu ce que propose ChatGPT, mais il faudra vraiment sur long terme, parce que là c'est vraiment toujours une hype qui date de quelques mois, mais à voir sur long terme quelle va être vraiment la qualité des services qui sont proposés, puisqu'on a vu aujourd'hui que ChatGPT, malgré ses 100 millions d'utilisateurs, propose parfois aussi des solutions qui sont totalement erronées. J'ai vu par exemple une discussion où à la fin, au bout de quelques lignes, ChatGPT était d'accord sur le fait que 5 plus 2 valait 8, donc on peut voir quand même que ces intelligences artificielles ont encore du chemin avant de donner quand même des réponses très fiables pour les utilisateurs.
Il y a des bugs, il y a des fake news, et comme vous l'avez dit, ChatGPT s'est alimenté d'Internet jusqu'à fin 2021, donc effectivement, ça laisse déjà plus d'une année sans données. C'est peut-être ça qui va lui porter un coup par rapport à la concurrence.
Oui, tout à fait, mais d'ailleurs, aussi, c'est tout aussi l'enjeu là de Google, de voir devenir un concurrent crédible de Microsoft, parce que comme vous le disiez en fait, Pierre, tout à l'heure, c'est que pour Microsoft, Google, le gros enjeu, ça va être tout ce qui est les données et la publicité. Et Google va finalement essayer de reprendre son train d'avance, puisque là, on ne va pas parler de OpenAI, qui est une petite start-up de San Francisco. On parle quand même de Google, qui est une des plus grandes entreprises qui souhaite être pionnière de l'intelligence artificielle dans le monde. Et on voit que investir autant d'argent est vraiment un gros enjeu pour eux, puisque, selon les experts, l'intelligence artificielle devrait ringardiser, en fait, le moteur de recherche classique avec simplement une liste de liens. Là, on va poser une question, on va vous donner une solution préconçue, donc on peut voir un peu les limites là-dedans. Éventuellement, ça pourrait aussi rapporter beaucoup à Google derrière, parce que finalement, les marques seraient prêtes à payer encore plus pour être mises en avant par le système. Donc on voit aussi qu'il y a un gros enjeu pour Google pour maintenir ce monopole justement sur Internet.
Pierre.
Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que Apple ne se soit pas lancé là-dedans. Vous voyez, on a Siri, qui est exactement un embryon d'Apple.
D'un robot conversationnel.
Alors, j'ai cru comprendre qu'on pouvait intégrer le ChatGPT à Siri avec en bidouillant un petit peu son iPhone et avoir un accès direct et converser via Siri avec ChatGPT. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que avec les moyens dont dispose Apple, qu'Apple se soit pas lancé là-dedans, je trouve ça assez décevant.
Charles.
En fait, pour moi, je pense que Apple, évidemment, ils sont pas totalement stupides. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, mais contrairement à Google, en fait, qui a été un peu pris au dépourvu et annoncé, par exemple, le nouveau produit Bard, il est absolument pas fini. Ils ont un peu annoncé à la hâte pour faire croire, pour être un peu le concurrent de Microsoft. Mais c'est assez étonnant qu'une aussi grande compagnie fasse une annonce d'un produit qui n'est pas fini. Et c'est rarement le cas de Apple d'annoncer des produits qui ne sont absolument pas terminés. Par exemple, on parle beaucoup de la voiture électrique ou du casque VR de Apple, mais ce ne sont que des rumeurs. Ils n'ont absolument rien annoncé. Je pense que vraiment, la définition d'Apple, intrinsèquement, c'est de sortir des produits qui sont terminés et de qualité. Et on voit que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils ne préfèrent pas trop s'avancer là-dessus.
Absent criant Apple, autre absent criant les Européens, Jean-Marc ?
Oui, alors Apple, je pense que Apple, ce n'est pas exactement le même type d'entreprise que Google. C'est vrai. Apple, c'est plutôt encore un industriel, alors que Google, c'est déjà quelqu'un
qui utilise l'intelligence artificielle sur d'autres domaines.
Domaines. Alors, effectivement, les Européens sont relativement absents. La course est faite par les Américains et les données, l'essentiel des données va se faire en anglais. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Et les Chinois,
Mais les produits chinois, ils sont obligés aussi d'aller chercher des données en anglais. Ouais. Donc on assiste à une nouvelle phase de cette mondialisation qui n'est jamais qu'une américanisation. Après, les Européens, ils font comme toujours dans ces cas-là, ils peuvent essayer de faire dans la qualité, c'est-à-dire garantir le fait que leurs informations seront correctes. Vous savez, il y a Atatürk n'a pas voulu adhérer au système de copyright. Alors on lui a demandé pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas une littérature turque à protéger ? Il a dit, on est nettement meilleur que les autres, sauf personne ne comprend le turc. Donc personne ne s'en apercevra, on restera entre nous. Et donc, les Européens, c'est de traduire le turc, parce que les Américains ne savent pas qu'il y a du turc, que les Américains ne savent pas qu'il y a du latin. Les Américains sont capables d'accepter que 5 plus 2, ça fasse 8. Et donc, la seule force des Européens, ce sera effectivement de miser une nouvelle fois sur la qualité plutôt que sur...
Le
chiffre, l'accumulation de...
Mais est-ce qu'on est condamné justement tout le temps à faire de la qualité, à faire de la réglementation, ce qui nous arrive beaucoup effectivement sur Internet notamment. C'est notre grand truc, mais enfin, on n'arrive jamais dans ces courses-là à trouver notre place, Charles.
Non, j'ai l'impression que la force de l'Europe, c'est éventuellement devenir en fait la puissance de la norme. En fait, c'est assez connu en France que lorsque les Américains ou les Chinois créent quelque chose, nous, on essaie de réglementer ou de taxer. Hein. On n'a pas sorti ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, et l'objectif est toujours de taxer ou de réglementer. Et c'est un peu, finalement, je pense, la limite de l'Europe. Mais éventuellement, on peut devenir des leaders là-dedans et donc d'imposer nos propres normes au monde entier, ce qui pourrait être vraiment un atout, en fait, puisqu'ensuite, on dicterait les règles un peu de la gestion des données, qui est quand même très importante aujourd'hui.
Pierre.
Moi, ce qui m'étonne, je suis d'accord avec Jean-Marc, globalement, mais la question de la langue avec ChatGPT, elle ne se pose plus, parce que ChatGPT parle à peu près toutes les langues. Donc, il n'y a pas de barrière. Et on disait la barrière, parce que c'est vrai que les États-Unis réussissent généralement bien, parce qu'ils ont un marché intérieur conséquent, plus conséquent que les pays européens pris individuellement. Mais là, il n'y a pas de marché vraiment. Donc, n'importe qui pouvait se lancer. Je trouve que c'est juste qu'on pêche peut-être par manque d'ambition.
Oui, non, je pense que et puis là aussi, on n'a pas besoin d'être l'entrepreneur. Si on est un bon imitateur et si on est le propriétaire de l'entrepreneur, on s'en débrouille pas si mal que ça.
Les rôles sont bien définis, comme d'habitude. Merci beaucoup, messieurs Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Charles Sterling, d'être venus nous voir aujourd'hui pour ce débat. Allez, c'est l'heure de retrouver Lorraine.
90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
La libre antenne de l'économie, Lorraine Goumeau en direct dans un instant. Aujourd'hui, vous allez répondre aux questions des auditeurs téléspectateurs et vous allez parler d'entretien d'embauche.
On va parler des 75% des candidats qui sont déjà sortis d'un entretien d'embauche en n'ayant plus jamais aucune nouvelle du potentiel employeur. C'est un chiffre qui est un petit peu étonnant. Et c'est Célica Tellier, la cofondatrice de Choose My Company, qui va nous aider à décrypter ce chiffre. Bonjour Célica.
Bonjour Laurette.
Merci d'être avec nous. 75% des chercheurs d'emploi ont déjà été, comme on dit, ghostés. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, être ghosté, c'est dans une relation quand il y a une des deux parties qui disparaît dans la nature sans laisser de traces, donc qui devient fantôme. Quand il s'agit de candidats qui sont ghostés, là, c'est l'employeur qui n'a pas donné de nouvelles. C'est un chiffre qui augmente notamment avec la transformation, la digitalisation du processus de candidature. Les employeurs, ils ont redoublé d'efforts pour que ce soit de plus en plus facile. En quelques clics, on peut devenir candidat. Donc, toujours autant, voire plus de candidats. Et ensuite, on est dans un marché de l'emploi qui est tendu, donc il y a pléthore d'offres, ce qui fait que l'ensemble est très dynamique. Maintenant, il y a un autre type de ghosting qui est nouveau, par contre, qui sont les candidats qui ghostent les entreprises. Le candidat qu'on a tant aimé, qu'on a tant apprécié, et ensuite, on n'a plus de nouvelles. Et c'est ça, le vrai cauchemar des recruteurs aujourd'hui.
Voilà, le silence des deux côtés, Sandra, c'est une discussion ghosting sur le phénomène de fantomisation. Je ne sais pas comment on va trouver une définition en français, mais on va y réfléchir. On répond à toutes les questions de nos auditeurs de 13h sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook et bien sûr en direct à la radio et à la télé.
Et vous continuez à poser toutes vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. La libre antenne de l'économie dans un instant donc avec Lorraine Goumeau. Moi je vous retrouve demain à midi avec Jean-Marc Daniel et toute la team. Vous pouvez retrouver cette émission, c'est important, en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Très bonne journée sur BFM Business.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.